Tigre en papier d'Olivier Rollin.
La fille de 13, je l'ai rencontrée à l'anniversaire de Judith. Le 50e du nom, dans un bistrot un peu branché de Belleville. Qu'était-elle venue faire ici au bal des Vioques, nous autres, tenir la place de 13, le représenter chez les Still Life, les vies calmées, amorties, les natures mortes.
Dis-moi qui il était. Dis-moi qui était ce père que je n'ai pratiquement pas connu.
Mais, Marie, je ne peux pas te parler de lui sans te parler de nous. 13, ton père, mon ami éternel, c'est l'un des nôtres. L'un des brins d'une pelote. Je ne peux pas le débrouiller, le dévider, l'arracher de nous, sinon je le ferais mourir une seconde fois. Sans nous, son image se fanerait. Sans nous, toutes nos mémoires s'effacent. On était ensemble jusqu'à l'absurde. On n'était pas l'histoire, mais on était des histoires. Réelles, imaginaires, entrecroisées, qu'on fabriquait. Un fagot d'histoire.
Alors, parlons-moi de vous.
On a rêvé des choses si déraisonnables. Qu'on tuerait, qu'on serait tué. Apprendre à mourir. Ça semble utile quand on est jeune. Luisante, effilée, perlée d'eau, assise comme un dog sur son arrière-train, la déesse Remember. Vous voici assis dans le vieux cuir noir, la fille de 13 et toi. Tu sens l'odeur, lui demandes-tu. C'est l'odeur du temps, odeur du temps brun de bruyère. Contact, le bruit majestueux du moteur de la déesse, la suspension qui monte avec des déclics, le volant à une branche qui tressaute avec de petits soupirs. Tout ça voluptueux, les yeux qui tournent, chavirent, lampadaire blanc sur le ciel mauve.
J'ai habité par là, à droite, en haut de la rue. Ah, quelle rue déjà ? C'était il y a combien d'années ? C'était avec Judith. Elle rêvait d'être Rosa Luxembourg ou Tamara Bunke, dite Tania, cette jeune femme tuée en Bolivie aux côtés du Che, ou encore Tina Modotti, photographe, agent secret, amoureuse, beauté qu'un taxi emmène morte dans la nuit de Mexico. Enfin, elle rêvait d'une vie aventureuse, à présent elle vend des appartements. Combien d'années, voyons, une trentaine? Est-ce possible? Internet n'existait pas, même pas les ordinateurs, ni les périphes, ni le TGV, ni les portables. Tu te rends compte? Judith, est-ce qu'elle avait encore les longs cheveux que j'aimais? On habitait chez un blond anémique, ou plutôt chez sa mère. Elle était mercière, un métier disparu. Qu'est-ce qu'on a dû les faire chier? Être ami de la cause, c'était pas une sinécure. Être à la cause n'était pas non plus de tourpeau, il faut le reconnaître.
Rue de Palestine.
Chirurgie dentaire.
Boucherie Belleville-Ouest.
Avocat à la cour. École communale de jeunes filles.
Restaurant La Perdrix Rouge. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Le rendez-vous des perdrix révolutionnaires? Oh pardon, ça m'a échappé.
Une fois, on avait préparé un formidable haut-parleur pour faire peur aux matons de la santé, où étaient emprisonnés des camarades de la cause.
En fin de compte, ils étaient assez peinards derrière les murs, bien plus qu'avant leur arrestation. En tout cas, ils avaient des visites et des livres à lire, plus de comptes à rendre, d'autocritiques à faire, de quoi apprendre. Et puis, il y avait Béatrice, l'avocate aux yeux jaunes, belle comme une louve. Ouais, on était tous amoureux. Seulement, ceux qui étaient sous les verrous avaient le droit de la voir plusieurs fois par semaine, quand nous, dehors, on en était réduits à rêver d'elle. Mais je suis sûr qu'il y en a qui se sont laissés arrêter rien que pour avoir des parloirs avec elle. On avait acheté deux haut-parleurs, ce qu'on avait trouvé de plus énorme. L'idée était d'installer cette sono sur un toit près de la prison pour envoyer des messages à tout le monde, copains et gardiens. Avant, on était allé les essayer à la campagne, en Normandie. On avait cherché un endroit bien désert dans les environs, sur une petite route qui datait du temps des carrioles à cheval, et puis on avait envoyé la sauce. Ben, c'était 13 qui avait enregistré le message, du style direct, efficace, hein, sans fioritures, maton, gare à vos roustons, ce genre-là. Mais alors, il s'est passé un truc inattendu. Toutes les vaches du coin ont prêté l'oreille et hop, au galop, on les voyait foncer vers nous du fin fond de l'horizon, sauter haies, fossés, hypnotisés par nos haut-parleurs. Le sol tremblait sous les sabots. Ah, la frousse qu'on a eue. On a coupé le son, elles se sont arrêtées aussi sec. Comme si on les avait débranchées. D'un seul coup, toutes abroutées et peinardes, l'air de rien. Apparemment, il y avait quelque chose dans nos braillements, une longueur d'onde ou une fréquence qui les attirait prodigieusement. Ou alors c'était la voix de 13. C'était peut-être l'Orphée des vaches, ton père.
T'es con!
Vert émeraude sur bleu nuit.
Vert émeraude sur bleu nuit.
Périphérique intérieur fluide.
Périphérique intérieur fluide.
Périphérique extérieur,
extérieur fluide.
Émeraude. Tu aimes ce nom, va savoir pourquoi. À cause d'Esmeralda, la première fille qui t'ait fait rêver sous les traits, mieux vaudrait dire, les courbes de Gina Lollobrigida. Ou bien parce qu'enfant tu passais tes vacances sur la côte d'Émeraude. Pas de planche à voile, ni de hors-bord, ni rien sur l'eau. La mer était vide, comme celle des tableaux alors. Il fallait se méfier des mines dérivantes. La marée en rejetait encore, grosse boule de mort, patiente, rouillée, attendant leur heure. On était si près de la fin de la guerre. Tu es né à mi-distance exactement de la mer des défaites et de Dien Bien Phu. Il faut le faire. La mélancolie historique, tu l'as têtée avec le lait de ta mère. Elle vous emmenait, ton frère et toi, à voir le soleil se coucher, depuis une pointe proche de la maison. Assis sur un banc, vous attendiez. Ce n'était pas le soleil qui tombait, vous expliquait-elle, mais la terre qui tournait, basculait, s'enfonçait dans la nuit. De l'autre côté du monde, en Asie, en Indochine comme on disait alors, le jour se levait. Vous espériez voir le rayon vert, mais vous ne l'avez jamais vu.
300 mètres.
300 mètres.
Créteil.
Créteil.
Marne-la-Vallée.
Marne-la-Vallée.
Metz, Nancy, Porte d'Ivry.
C'est ici qu'on aurait dû sortir. Par là qu'elle habite, mais tu as raté la bretelle, emportée par l'inertie déjà du récit.
Alors, si on continuait...
Ouais, moi ça me va.
Mais moi aussi, un peu gris, mais pas trop. Alors on continue?
Ouais.
Et je me souviens d'une scène dont j'ai mis longtemps à pouvoir sourire. Des années, en fait. Je suis assis dans l'entrée d'un appartement qu'un ami m'a prêté, Porte d'Orléans. On est en 67, peut-être. Je suis assis à une table et j'écris un tract. Ça risque d'être le tract le plus long de toute l'histoire de la Gitprop parce que, à ma gauche, la porte qui donne dans la chambre à coucher est ouverte. Bon, quelle heure est-il? 1h, 2h du matin. En ces temps-là, la nuit n'existait pas. La nuit pour dormir était une invention de la bourgeoisie. La nuit, on faisait des réunions, mais le jour aussi. C'est fou ce qu'on passait de temps à discuter. Il fallait disséquer les moineaux, selon une formule du grand timonier. C'était une façon élégante de dire « enculer les mouches ». Sans doute y a-t-il eu une réue ce soir-là, Porte d'Orléans. Enfin, à présent, j'écris un tract. En protégeant la prétendue ambassade des fantoches sud-vietnamiens, les flics ont clairement montré qu'ils n'étaient qu'une milice supplétive. Clairement. Voilà un adverbe qu'on affectionne. Tout doit être clair.
Toujours. Sinon, comment ne pas mourir d'angoisse? Les flics ont clairement montré donc qu'ils n'étaient qu'une milice supplétive des B-52 américains. Mais ils ne sont que des tigres en papier, et les partisans... Et les partisans... pendant que j'écris ça, déjà que c'est difficile, et pendant que j'essaie d'écrire ça, je suis distrait, mais alors terriblement, parce que je vois à ma gauche, dans l'encadrement de la porte de la chambre à coucher...
Un poids lourd qui déboîte brutalement sans prévenir, te faire monter le cœur dans les amygdales et glisser la voiture vers la gauche. Frein pas bloqué, heureusement. La fille de 13 n'a pas bronché. Elle a du sang-froid. Elle tient de son père. Et toi, encore des réflexes? Moi, ça date, ça, les réflexes. Du temps où tu conduisais sur les routes gelées une Mercedes volée, avec un petit rectangle de tôle découpé derrière la coudoir, à l'arrière... pour communiquer avec votre prisonnier dans le coffre. Un député qui avait été milicien. Comment s'appelait-il déjà, ce salaud? Il te semble qu'il avait un nom de cardinal.
On avait piqué les bagnoles à la gare de Vesoul. On portait des gilets et d'impayables chapeaux en velours pour avoir l'air de notaire ou de médecin de campagne. Enfin, du moins, c'est ce qu'on imaginait. Des notaires de 20 ans. Et c'est à présent que je pourrais peut-être tromper mon monde, seulement... l'envie m'en a passé. Oui, c'est ça, à présent. Cheveux gris, l'air d'un bourgeois, et l'envie qui a passé?
Je sais pas. À toi de me dire.
Bah, finalement, on lui avait jamais rien crié à travers le trou du souffleur, à ce milicien député à nom d'évêque, parce que ce gibier de potence-là avait disparu au moment où on allait l'attraper. C'était souvent comme ça.
L'astre noir à ta droite, sillonné d'éclairs, de néons, d'éruptions, bleues, rouges, vertes, blanches, parfois une fenêtre allumée veille dans la nuit. Cette énorme toupie de ténèbres est faite d'histoires tassées, effondrées sur elle-même. La ville est la pelote en quoi se noue et se serre des millions de fils. Vie présente et passée, vécue et rêvée, quelque part dans cette matière inextricable, il y a mon histoire à moi, et celle de 13. Et toutes les autres qui étaient tressées aux nôtres, les saints et les balances, les castagneurs et les pleutres. Et il y a aussi toutes les histoires plus hautes, plus tragiques, auxquelles les nôtres étaient liées par les liens du rêve. Saint-Just à la guillotine et le mur des fédérés, les barricades de février et de juin, le coup de feu du colonel Fabien sur le quai du métro Barbès, l'affiche rouge, toutes ces histoires emmêlées en une énorme perruque, certaines... grandes et rudes, d'autres fragiles, mais tirant des premières une force naïve. Tout ce passé embrouillé, intriqué, entassé dans la forme d'une ville, il suffit de prendre le bon fil et de tirer très délicatement pour le dévider.
Vincennes.
Vincennes.
Doré.
Doré.
Doré. Station service. Johnny Walker keep walking.
Johnny Walker.
Périfluide. A4 à 86 fluide.
Deux heures du matin. Le ciel s'éclaircit à l'approche de la Seine. Les fleuves répandent cette espèce de phosphorescence dans le noir du ciel. À mi-tôt, j'avais pressenti le Mékong à cette lueur dans les nuages. C'était pas pour Marguerite Duras que j'étais allé là-bas, dans le delta Cochin chinois, ça non, mais pour voir l'endroit d'où le lieutenant était parti un matin, l'année d'après ma naissance, pour mourir sur un rack du Mékong. Le lieutenant, c'était mon père. Tu vois, Marie, j'en sais pas tellement plus sur mon père que toi sur le tien.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière la porte? Porte d'Orléans?
Comment ça, qu'est-ce qu'il y avait derrière la porte d'Orléans? Eh bien, je sais pas, mon rouge, Malakoff, je sais plus. Enfin, comme d'habitude.
Ah ben, c'est pas ce que je te demande. Fais pas l'imbécile, tu racontais que tu écrivais un tract et que quelque chose derrière la porte. Et puis tu t'arrêtes toujours au milieu de tes histoires.
Il y a une porte ouverte dans laquelle s'inscrit en diagonale la moitié d'un lit sur quoi s'aperçoivent les jambes nues de Chloé. Et ses jambes bougent. Et c'est peu de dire qu'elles bougent. Elles se nouent, se dénouent, glissent, se frottent l'une contre l'autre. Si crétin que je sois, il ne m'échappe pas que ses jambes parlent. Plus précisément qu'elles me parlent à moi.
et même assez franchement. Or, je suis fasciné et terrifié par ce qu'elles me disent. J'ai pas peur de me faire casser la tête, ni d'aller en prison, mais j'ai peur du sexe de Chloé. Voilà la vérité. Et la deviner, cette vérité, est à son tour une chose terrifiante. Tu vois, Marie, nous étions à la fois très durs et très infantiles, prêts à tuer, sans doute, et à nous faire tuer, ça sûrement, et en même temps, tremblants devant le sexe et terrifiés aussi par l'autorité d'un chef qui n'était jamais qu'un étudiant un peu plus savant que nous, un peu plus âgé aussi. Mais Gédéon était paré à nos yeux d'une ancienneté formidable. Il était comme roi par l'histoire et aussi par la théorie, comme on disait.
Qui c'est Gédéon ?
Notre grand dirigeant. Son pseudo était Gédéon, à cause des initiales de sa fonction, GD. Gédéon pouvait parler une heure sans note, sans la moindre hésitation, sans commettre la plus petite faute de syntaxe. Lorsqu'il se taisait, les situations les plus compliquées semblaient soudain simples. Des voix lumineuses s'ouvraient dans la broussaille du monde. Chacun savait ce qu'il restait à faire. La première fois qu'on l'a vu, c'était ce jour où j'étais venu avec 13 exposer notre projet d'embuscade contre les CRS sur l'autoroute de l'Ouest. C'était les sombres jours de juin 1968. La réaction l'emportait, les drapeaux rouges inexorablement disparaissaient des toits, les usines, les unes après les autres, reprenaient le travail. Nous nous étions battus avec la police autour de l'usine Renault, à Flins, et un jeune lycéen avait été tué dans cette affaire. Enfin, il s'était noyé dans la Seine, en essayant d'échapper à la police, et c'était le premier homme que je voyais fauché ainsi. Le son de sa voix encore dans mes oreilles, tous ses gestes familiers et presque enfantins encore déployés autour de lui. C'était la première fois que nous mourions. Nous avons couru, 13 et moi, à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, qui était comme le château fort du grand dirigeant. Une passerelle fermée, mais non gardée, enjambait l'autoroute de l'Ouest, empruntée par les relèves des CRS. Il ne doit pas être trop compliqué, la nuit, muni d'un coupe-boulon et d'un bon cageot de cocktail Molotov, de cisailler les cadenas de la grille d'accès, d'attaquer un convoi du haut de la passerelle, puis de se replier en vitesse.
C'est ça que vous avez proposé à Gédéon ?
Oui. Et pendant que je parlais, j'étais bien plus impressionné par le silence impénétrable de Gédéon, l'attente de son verdict, que par les conséquences éventuelles de l'acte que nous nous proposions d'accomplir.
Et alors, qu'est-ce qu'il a dit ?
Oh, en quelques phrases dédaigneuses, il a condamné notre plan. Nous n'avions rien compris aux lois de la violence symbolique. Nous avions encore des progrès théoriques à faire. On s'en doutait un peu. Ah, là-bas, à gauche, il y a Rhin et Danube, le rond-point, et puis plus loin, le pont et l'autoroute qu'ils appellent maintenant A13. En l'honneur de 13, si ça se trouve, je ne sais si je parviendrai à te parler de ton père qui fut et qui demeure, mon ami, puisqu'il n'y a d'ami qu'éternel. Mais je voudrais au moins que tu comprennes que nous étions peut-être les derniers. Oui, tout ridicule qu'on était. Mis Don Quichotte, mis Sancho, à nous intéresser à l'éternité. Oui, c'est ça. Plus qu'à toute autre chose. À l'éternité.
Périph' fluide.
Porte Molitor.
Porte de Saint-Ouen.
Porte de Deuil.
GSM.
A3,
nettoyage industriel.
A13, A14, fluide.
Bouygues Télécom, son digital.
Fondaigne, la grande galaxie
Casino.
Spirale du Parc des Princes.
Sony.
Je me souviens des premiers instants de ma vie avec Chloé. On voulait prendre d'assaut la prétendue ambassade des fantoches sud-vietnamiens, dans notre langue de l'époque. Et je m'étais avancé vers la muraille sombre et scintillante de casques, de visières, de boucliers, de jambières, d'où fusait l'enivrant feu d'artifice des grenades, brandissant... Quoi d'ailleurs ? Curieusement, je me souviens très bien de la certitude que j'avais, commençant à courir en avant des premières lignes de la manif, qu'il allait m'arriver quelque chose. Je me souviens du choc et du démentibulement, de la chute et de la douleur, la cuillère de la grenade me cassant les dents, de la stupeur et en même temps de l'espèce de satisfaction de constater que quelque chose en effet était advenu, ces miettes sanglantes, ce goût salé dans la bouche, et de l'obsession presque simultanée de me relever pour échapper aux pigs. Ainsi que par référence aux Black Panthers, on appelait les flics quand on les traitait pas de SS. Tout ça, le temps d'une détonation, d'un coup de lance-patate. Mais j'ai oublié ce que ma main droite s'apprêtait à lancer. Pavé, cocktail Molotov. Et cette main ensuite, c'est Chloé qui la tient. Je suis allongé dans le cabinet d'un salaud de médecin qui, tout en me suturant le plus brutalement qu'il peut, me déclare que je n'ai que ce que je mérite. Et ce con n'a pas l'air de comprendre que je ne pouvais rien rêver de plus beau que ça. Être couché sur sa foutue table, puant comme un blessé d'une vraie guerre, avec la gueule en sang et la main de Chloé tenant la mienne. Quelque chose comme le paradis.
Et ça a duré, ça, le paradis ? Ou bien vous en avez été chassé comme il se doit ?
Ça a duré quelques mois, le temps qu'elle supporte plus mes conneries. J'étais gêné par quelque chose d'éclatant en elle qui me paraissait contraire à... À quoi, Tartuffe ? À la bienséance, c'est ça. À la bienséante modestie. Ben, c'est comme Victoire et Laurent, le plus beau couple de la cause. Leur beauté avait quelque chose qui gênait certains de nos camarades. Tu trouves ça étrange ? T'as raison, Marie, c'est étrange, et même assez monstrueux. Mais cette méfiance vis-à-vis de la beauté, prélude à la haine de la beauté, était une espèce de lèpre morale dont nos esprits étaient infectés.
Et pourquoi ?
Eh ben, même aujourd'hui, après tant d'années, je ne sais pas bien l'expliquer. Peut-être tout simplement parce qu'elle résiste, la beauté, à cette terrible volonté de nivellement que nous avions.
Parce qu'elle est le contraire, ce qui distingue. Ce qui est injustement donné aux uns et refusé à la plupart.
Non mais là, il s'agit de la beauté humaine. Tandis que nous méprisions aussi la beauté d'une église de campagne, qui n'est donnée ni refusée à personne en particulier. Celle d'un ciel de nuages, celle des toits d'une ville, c'est ça qui ne va pas, enfin, qui n'allait pas. Et la beauté de l'art, n'en parlons pas, nous la détestions, sans la connaître. La beauté fait dérailler, divaguer, et nous, ce que nous aimions, c'était les masses, comme on disait. Pas l'exception. Et puis, il y avait une sorte d'assez dégoûtante sacralisation du malheur. Par exemple, Winter et sa lycéenne, Cosette. Oui, Cosette, c'est le nom que ses parents lui avaient donné. Parce que certains livres, autrefois, aidaient à croire en un avenir humain. Tu ne peux déjà plus comprendre ça, toi. Hein ? T'es déjà trop loin des livres, non ?
Mais va te faire foutre.
Bon, ok, tu as raison. Tous les matins, après avoir déverrouillé l'antivol de leur mobylette, Winter et Cosette s'étreignaient longuement dans le brouillard jaune du canal. Leur amour naïf, solennel comme tous les jeunes amours, énervait un peu les autres. Un jour vint où Gédéon, s'inspirant des folies de la Chine, décréta une mesure à laquelle il donna le nom ridicule de « père rouge ». Il s'agissait de placer chaque jeune intellectuel sous la tutelle d'une sorte de précepteur ou de commissaire politique ouvrier. Dans le Nord, certains y virent l'occasion de séparer Winter de sa lycéenne. Peut-être pas vraiment par méchanceté, plutôt pour voir, pour tester leur discipline, avec un peu de malin plaisir tout de même. On exigea qu'elle déménage à Valenciennes pour se placer sous l'autorité d'un semi-illettré qui n'était même pas prolo, mais chef de rayon chez Auchan.
Et ils ont obéi ?
Oui. Ça paraît incompréhensible à présent. Mais on était des jésuites, tu sais, périndés à cadavères. Au début, ils se donnèrent des rendez-vous, mais en mobylette, Valenciennes est loin de Roubaix, et puis, en se pliant à cet ordre absurde, au nom d'une abstraction révolutionnaire, ils suspectaient qu'ils s'étaient trahis l'un l'autre. Elle tomba malade, ils ne se virent plus pendant 2 mois, et ils ne se virent plus jamais. Winter, à présent, est un prof vieillissant, il boit beaucoup, seul, sans joie, sans fureur non plus. Il avale ça comme des médicaments. D'ailleurs, ce doit être le cas. Il n'a jamais oublié Cosette. Ne s'est jamais pardonné de l'avoir laissé partir. Et remarque, il a raison de ne pas se pardonner. Il avait peur de la vie, comme beaucoup d'entre nous, et il jetait là-dessus des oripeaux héroïques. Ça lui semblait peut-être trop beau, cette histoire d'amour. Trop effrayant. C'est étrange, mais on n'avait pas été formés à accepter le bonheur sans discuter.
Mais pourquoi ?
Mais parce que, je sais pas... Suppose par exemple qu'il n'y ait pour l'humanité, à un moment donné, qu'une certaine quantité de bonheur disponible. Si tu en prends trop pour toi, tu voles les autres. Tu tires sur leur petite ration, tu comprends ? Et alors, ils ont du mal à s'éclairer à cause de toi. On peut voir les choses comme ça.
Mais c'est complètement débile. C'est au contraire en étant heureux qu'on aide les autres à l'être.
Et tu as la preuve de ce que tu avances? Vos petits arrangements avec le bonheur sont trop simples aussi. Enfin, peu importe. Winter est un type foutu depuis longtemps. C'est pour ça que je l'aime bien. Il attend Cosette. Son retour, je ne crois pas qu'il l'espère vraiment, mais il l'attend. C'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas? On peut attendre une chose qu'on n'espère plus. Hein. C'est même exactement ça qui est humain, à mon avis. Je sais de quoi je parle.
De quoi tu parles?
Plus tard. Je te dirai plus tard. Et la mort, regarde, on l'attend sans l'espérer. Enfin, en général. De qui je te parlais? Avant Winter, je veux dire.
Je sais plus, tout ça trop embrouillé.
Mais c'est la vie qui est ainsi, Marie, cette pelote emmêlée. C'est quand tu n'y comprendras plus rien, quand tu confondras tout le monde, que tu auras une idée de comment on était, de comment était ton père, entre autres, entre nous.
Metz, Nancy,
Porte de la Villette. Vers Émeraude. Comme la côte de ton enfance.
Jambes de Marie nouées, assises en petite jupe noire. Rien de plus beau en général dans le vaste univers que ce dessin. Pas même celui des lèvres. Lignes pleines, tendues, lisses, de la chair sous le bord de la jupe, creusées soudain autour du galet luisant du genou, puis s'évasant, une jambe croisée sur l'autre, se resserrant de nouveau aux chevilles, et tous les glissements de la lumière sur ces formes fatales, ces fuselages qui insultent les mots. Envie furieuse d'y plonger la main, et attention, pas touche, c'est la fille de 13, ton amie. Amie mort et enterré depuis une paye.
Des roues rayonnant rouge dans la brume. Station service total fluide. Porte de Pantin.
Station service total.
Casino. Village hôtel, 240 francs.
Porte de Pantin.
Ibis, climatisé.
Heineken.
Bleu, abbaye de l'air.
Rouge. Blanc.
Vert. Rouge.
Vous vous apprêtez à boucler déjà votre première révolution autour de l'astre noir. Soleil noir de la mélancolie. L'anémone et l'encolie. La ville du grand gibet et de la roue, sphère nocturne peuplée du passé dont on n'a pas fait table rase, vous sautez les gerbes de rails de la gare du Nord.
C'est par là qu'on a fui avec 13 par le train postal après que... Attends, il faut que je reprenne au début.
Porte de Montreuil. Hypermarché Auchan. Vert. Rouge. Bleu. Paris Nord.
Le général en retraite, Chalet, PDG d'Atofram, avait une palace gris-perle. Et lorsqu'il s'est garé, qu'il en est descendu rue des Marronniers, je lui ai mis le canon de la mitraillette sur le ventre. Une vieille Sten de la guerre, à chargeur horizontal, de celle que les Alliés, à la fin, parachutaient par milliers. On nous l'avait passé, cette Sten, avec aussi un stock de bâtons de dynamite qui provenait de la mine. Ce stock de dynamite, moins quelques bâtons qui avaient servi à faire sauter un journal d'extrême droite, on est allé l'enterrer dans la forêt de Fontainebleau, avec 13, quand tout a été fini. C'était nos adieux à Fontainebleau, en quelque sorte. Sa mère habitait par là, et il avait pensé que c'était une bonne occasion pour aller voir sa vieille, comme il disait. Elle vivait dans un coquet pavillon en lisière de forêt, en compagnie d'un ancien flic d'une taille colossale. Mais tu dois connaître.
Non, j'y suis jamais allée. Elle a coupé les ponts depuis la mort de mon père.
Et ils nous ont offert l'apéro. Et voilà que l'ancien flic s'est mis en tête d'essayer notre voiture. C'était une Citroën, une BX. Il songeait à en acheter une, justement, alors puisque l'occasion se présentait. On était bien emmerdés. La dynamite était dans le coffre. S'il se faisait rentrer dedans, on va savoir ce qui pouvait arriver.
L'ex-flic est parti faire le tour du quartier au volant de la bombe roulante. Nous, on est restés à boire du Sanzano. Et soudain, 13 a été pris d'un fou rire, mais alors, mais vraiment le fou rire terrible. Et moi, du coup, je m'y suis mis aussi. Et quand l'ex-flic est revenu, nous étions tous les deux à octet avec la mer entre nous, suffoquant d'indignation. Et nous sommes partis comme ça, pliés en deux. Et nous avions encore des saccades de rire lorsque nous enfouissions la dynamite dans une petite clairière, en prenant des repères pour le jour où, tel Jean Valjean déterrant sa cassette, nous viendrions la récupérer. Parce que nous ne doutions pas que les mauvais jours finiraient, comme disait la chanson de la commune, et qu'il y aurait une revanche. Et maintenant, ton père est mort. Moi, je suis un vieil homme de lettres. La révolution n'est décidément pas à l'ordre du jour, et il y a quelque part, sous l'humus de la forêt de Fontainebleau, quelques dizaines de cartouches de dynamite qui exploseront peut-être lorsqu'un bulldozer les déterrera à la fin du XXIe siècle, ou plus tard. Alors je te disais, quoi au fait? Qu'est-ce que j'étais en train de dire?
Que tu avais planté le canon de la Stène dans le ventre du général en retraite Chalet.
Ah oui, il fallait le pousser à l'intérieur de la camionnette. On pensait que Chalet allait opposer une résistance acharnée, alors je l'ai poussé de toutes mes forces avec la Stène vers la porte ouverte de la camionnette. Eh bien, au contraire, il s'est quasiment évanoui, si bien qu'emporté par mon élan, je l'ai bousculé et nous sommes tombés tous les deux par terre, moi sur lui. Et dans l'affaire, le chargeur de la Stène s'est déverrouillé et il a giclé dans le caniveau. Pas les balles, puisqu'on ne chargeait pas nos armes pour éviter des conneries, des bavures, comme on dit. Bon, on a ramassé toute cette quincaillerie et en voiture. C'est marrant. Quand j'y repense, l'enterrement de la dynamite, c'était un peu comme l'enterrement de notre jeunesse. Une cérémonie magique. Tous ces bâtons explosifs au fond du trou, c'était comme des représentations, des fétiches de ce qu'on avait été et qu'on ne serait plus. C'est peut-être pour ça aussi qu'on était secoués par un rire nerveux, 13 et moi. Et quelques années plus tard, il est mort en quelle année déjà?
1980.
Ah oui. Alors 6 ans plus tard, c'est lui qu'on coucherait sous la terre, dans le petit cimetière du bled où habitait sa mère, non loin de la tombe depuis longtemps oubliée de la dynamite. Et toi ce jour-là, Marie, tu avais quel âge? 6 ans?
Non, 4.
Ah d'accord, 4. Et en tout cas, tu ferais mine de ne pas comprendre ce qui arrivait. Tu ferais des galipettes sur l'herbe du cimetière en riant aux éclats. Tu aurais décidé de réagir par le bonheur. Ta mère, terriblement gênée et malgré son chagrin, ne sachant que faire. Il y avait des feuilles d'automne éclatantes dans la forêt, je me souviens. Des fontaines de feu jaillissant dans le sombre. Comme le jour où, avec 13, on avait enterré la dynamite.
Carrefour, bleu. N34,
700 mètres.
Porte de Vincennes.
Porte de Vincennes.
Porte dorée.
Porte
bleu.
Dorée. Bleu.
Étape hôtel. Vert. 245 francs
francs la nuit.
Hôtel Formule 1, 700 mètres.
Rolge, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a désigné un building sur une grande avenue de Bruxelles d'un mouvement de menton. L'OTAN, m'a-t-il dit sobrement. Ça va sauter cette nuit. Mais avec juste un petit sourire en coin, un peu fade, du genre « T'as vu les putains de tuyaux que j'ai ?» Mais pas plus. En ces temps où rien ne semblait impossible, j'avais tout de même été un peu estomaqué, mais je savais me tenir. J'avais pas montré de surprise, ni posé de questions indiscrètes. Et la nuit venue, naturellement, rien ne s'était passé. La Troisième Guerre mondiale avait fait long feu. Roger le Belge était comme ça, bavard, vantard, dangereux, mais efficace tout de même pour certaines choses. C'était un porteur de valises dans l'âme, qui ne se demandait pas ce qu'il y avait dans les valises. Plutôt, il le savait bien, mais il laissait aux autres, aux destinataires, la responsabilité des suites imaginables. Et il avait commencé sa prodigieuse carrière à 14 ans comme courrier de la Résistance. Galopin, comme il disait, d'un vieux mot oublié. Arrêté, torturé, déporté, il avait réussi, à la faveur d'un bombardement, à s'évader du train qu'il menait à Dachau et avait traversé l'Allemagne à pied dans la neige et le feu de l'hiver 44-45. À Moscou, à 20 ans, on lui avait appris à faire des faux papiers. Et il avait serré la main du camarade Staline. Il en avait conservé une mauvaise photo découpée dans la Komsomolskaya Pravda. Et des talents de faussaire et de buveur de vodka qu'il mettait volontiers à la disposition des autres. Mais à l'époque, Rolge gagnait sa vie en se faisant des sacs à main dans les beaux quartiers de Bruxelles. Et en peignant des faux Delvaux et Magritte. Peintre qui mettait la métaphysique à la portée des bourgeois et dont la cote commençait à monter en conséquence. On ne pouvait pas s'empêcher d'aimer Roger le Belge. C'était un type éminemment poétique, Un anachronisme, une vieille épave historique. Il se flattait de ses relations avec les Black Panthers, l'IRA, l'ETA, les Tupamaros, les Montoneros, les Ngakuren, les Wesamen et autres bandes où des aspirations à la sainteté côtoyaient une nette tendance à l'assassinat. Ça nous énervait et nous inquiétait, mais ça nous impressionnait aussi. À l'en croire, il avait piloté le Tché en 1965 dans les jungles de l'ex-Congo belge. C'était peut-être vrai, hein, comment savoir? À sa façon, il était l'histoire, ce vieux crasseux. Et l'histoire était à nos yeux le grand livre où tout était écrit, passé, présent et avenir, le recueil des traditions et des prophéties.
Hôtel Mercure.
Hôtel Mercure.
Ford.
Ford.
Paris Expo.
Ariston Electro-Mail.
Biolumière Thérapie. Sofitel.
Paris Expo.
Sharp.
Porte de Sèvres.
Porte de Sèvres.
Securitas.
Securitas.
Ah, ça me fait penser à une idée loufoque qu'on a eue avec Tress quand tout a été fini. Je te l'ai dit, on était quand même désespérés, hein. Soulagés et désespérés. On n'avait pas l'intention de devenir des bourgeois, mais on sentait que ça allait être difficile. Alors, tout en éclusant des bières, on avait conçu l'idée d'un adieu burlesque à la Révolution. Tout le film, une dernière fois, du début jusqu'à la fin, en accéléré. On aurait débarqué à quelques-uns par la vedette dans une petite île anglo-normande, Cerque. Cette île, c'est un jouet. À 10 en une heure, même avec des pistolets en plastique, on contrôlait tout. Il y a une espèce de souveraine, on la déposait, on l'embastillait, on aurait hissé le drapeau rouge sur le manoir de la Lady, proclamé le pouvoir des soviets, la collectivisation intégrale des terres, la bière et le whisky à l'œil, le premier jour. Et le deuxième, on aurait fermé les frontières, interdit la vente des journaux, décrété l'industrialisation à outrance et la planification, et mis le port, la taille d'un court de tennis, à la disposition de la flotte cubaine. Les Russes nous semblaient trop mous, trop raisonnables, mais les Chinois trop lointains. Et le troisième, on aurait inventé un complot et arrêté certains d'entre nous. Le quatrième commencerait les procès. Une ferme serait réquisitionnée pour devenir un camp de travail. Et on n'avait rien prévu pour la suite, parce qu'il nous semblait que la patience de la couronne britannique avait des limites et que notre spectacle ne resterait pas à l'affiche plus de 4 jours. Mais on se défendrait héroïquement avec des mitraillettes à amorce et des pistolets à eau. Et une fois de plus, la révolution serait assassinée.
Et qu'est-ce qui est arrivé?
Rien. On n'a pas eu les couilles de le faire. On était des tigres en papier, nous aussi. Oh, au fait, ton père, tu sais d'où lui venait son surnom, quand même?
Non.
Vraiment? Ta mère t'a pas...
Non, mais elle déteste cette époque.
Oui, d'accord, mais de là... Ben, je pensais, tout de même... Ben, voilà, ça vient d'une photo. Une des très rares photos de ce temps-là... Elle a été prise pendant l'été de 1969, tu te rends compte? 7 ans avant ta naissance. Déjà, on ne prenait plus de photos, hein. Ça évoquait trop les vacances bourgeoises, les cousines à la plage, du romer. Et puis surtout, c'était pas la peine de faciliter le travail de la police. Mais là, je sais pas pourquoi, l'été, l'enthousiasme, quelques verres peut-être, au café de la gare. On a pris une photo de groupe en débarquant du train de Paris à Guingamp. On allait travailler chez des paysans, s'endurcir, apprendre à mettre les mains dans la merde tout en gagnant les campagnes à la Révolution. On appelait ça des longues marches. En référence à la longue marche chinoise, bien sûr. Bah, d'un rien, on faisait une épopée. C'était à la fois ridicule et beau. C'est en tout cas ce qui me semble, aujourd'hui. Et sur cette photo, devant la gare, on dirait une équipe de foot. On était 12. Le nombre des apôtres, je te fais remarquer. Enfin, si jamais ça te dit quelque chose, les apôtres.
Non, mais tu te moques de moi ou...
Non, excuse-moi. C'est vrai, je suis énervant de temps en temps.
Ouais, souvent même.
D'accord. Alors, on était donc 12, ou plutôt 13. 12 à prendre la pose, et Chris, le 13e, qui prenait la photo. Exclu du champ pour immortaliser les autres, comme on dit. Mais exclu aussi comme si une superstition nous avait interdit de paraître à 13 sur ce portrait de groupe. D'où le surnom de ton père, qui ne l'a plus quitté. Numéro 13, et puis simplement le chiffre, parce qu'autrement, c'était trop long. L'invisible, celui qui n'est pas sur la photo.
À quoi boulevard?
Nantes. Bordeaux. Périph' fluide.
Mort sur un rack du Mékong, donc. Le lieutenant, quelques mois après ta naissance. Le lieutenant était une des figures de l'immense procession. Pas un révolutionnaire, non. Mais un homme courageux. Un antifasciste. Un patriote, comme on disait encore. Alors il avait été français libre, combattant de la Libye à l'Alsace et jusqu'au cœur de l'Allemagne, et puis ensuite volontaire pour le corps expéditionnaire. Beaucoup de résistance était engagée pour l'Extrême-Orient. Il y avait sans doute une volonté de continuer cette vie ascétique, dangereuse, fraternelle, qu'ils avaient partagée pendant les années tragiques. Une peur de retomber dans le cloaque des intérêts, c'est-à-dire de la vie sans intérêt. Et puis aussi, probablement, l'idée fausse, mais répandue à l'époque, de la mission civilisatrice de la France, etc. Et puis, tout simplement, la fascination que suscitaient ces mots, Extrême-Orient, et qu'ils suscitent toujours, en dépit de la banalisation du monde. Alors il était parti là-bas, en Cochinchine, pour y mourir, à 9h du matin, au 1064 du Mékong, tué dans une guerre injuste, comme on dirait plus tard. Une guerre coloniale, une guerre impérialiste. Tué par l'explosion d'un obus de vin tiré par la vedette à bord de laquelle il se trouvait. Tous les impérialistes sont des tigres en papier. Ils soulèvent une grosse pierre pour se la laisser retomber sur les pieds. On aurait dit que c'était pour évoquer la mort du lieutenant que Mao avait trouvé quelques-unes de ses images les plus célèbres.
Les quatre essais philosophiques du grand timonier, qu'est-ce que vous avez pu les rabâcher, ces fadaises? Quand les données sensibles se sont suffisamment accumulées, il se produit un bond par lequel elles se transforment en connaissances rationnelles, c'est-à-dire en idées. Hein, pas plus compliqué que ça. Tu le vois bien, le bond? Le grand bond en avant des données de l'expérience sautant dans la pensée. Hop, à pieds joints, kangourou, hein, impayable ce Mao. Je me souviens avoir pris des notes sur ses platitudes comme j'en avais pris sur Kant ou Hegel. Et encore, moi, j'étais pas vraiment un philosophe, mais Gédéon. Il me semble à présent que ce qui nous fascinait dans ces textes, c'était précisément leur rusticité. Il y a un charme de la laideur, une séduction de la non-pensée. Il y a une volonté d'être faible et idiot. En ressassant les versets obtus du grand timonier, nous avions sans doute le sentiment confus de faire le sacrifice de notre intelligence. Mais c'était bien puisque notre prétendue intelligence faisait de nous des intellectuels bourgeois. Premier pli. Mais d'un autre côté, s'il fallait vraiment sacrifier son intelligence pour tirer quelques profits des œuvres de Mao, c'est qu'elles étaient... second pli.
Quelles étaient quoi?
Un ramassis de lieux communs, tiens. Soupçons, doutes inavouables. Je te disais, deuxième pli. La pensée fanatique, contrairement à ce qu'on croit, n'est jamais d'un seul tenant, d'un seul mouvement. Attention, là c'est important ce que je te raconte. La pensée fanatique, c'est une pensée repliée sur elle-même, en zigzag, en accordéon. Et sa violence vient de là, du fait que le dernier pli essaie de tenir tous les autres serrés, tassés, écrasés sous lui. Je hais les Juifs ou l'Occident, ou les femmes, parce que je les admire, ou les crains, ou les envie parce que je me méprise, etc. Chose inavouable. Tassons bien le ressort. La brutalité de l'invective est à proportion de cet effort pour écraser les spires de pensée inavouable.
Et tu coulisses, toi, en douce, quelques regards sur les jambes de Marie. Ces jambes qui... oui, enfin, qui luisent un peu dans la nuit. Beaucoup, même. D'innombrables phénomènes du monde objectif sont réfléchis dans le cerveau par le canal des cinq organes des sens. Bon Dieu, pensée inavouable, philosophie dans le boudoir.
Les essais prétendument philosophiques de Mao et toute cette tisane chinoise, c'est au nom de ça, hein, en nous abrutissant, nous droguant avec ça, qu'on en est venu à respecter des prolos qui étaient des psychopathes, des macros, des balances ou simplement des mythomanes. Bah, faussement, bien sûr, on les respectait faussement. La pensée en spire. On les respectait au fond parce qu'on les méprisait, parce qu'on les méprisait de nous respecter, parce qu'on se méprisait de les mépriser, et ainsi de suite.
EDF, GDF,
Rouen, Snapchat, Porte de Saint-Cloud,
France Télévisions,
National 10,
TF1,
Boulogne,
Miroir Trip à Port-Tribord, Sablière, Morillon Corvol.
Les usines Peugeot à l'époque, si loin dans l'Est et le froid, si dur,
C'était un peu, pour les petits bourgeois qu'on était, ce que devaient être les forêts de la Germanie pour un Romain de la décadence. Un avenir farouche y était en gestation, parmi les danses barbares et les sacrifices humains. Juju était le chef de la base ouvrière de Sochaux. C'était un féroce. C'est au moins la réputation qu'il avait. Et il ne se faisait pas trop prier pour raconter comme en confidence qu'il avait fait partie du groupe de têtes brûlées qui, en juin 68, défendant l'usine occupée, avait précipité des CRS dans des bacs à acide. Cet événement fabuleux était une des légendes qui traînait après mai. Bon, c'était peut-être nous, à la cause qui l'avions inventé, on en était bien capable. C'était peut-être 13. Plus probablement, c'était une de ces rumeurs qui naissent de rien, de ce rien qu'on appelle l'air du temps. Et Juju, l'ayant entendu, y avait trouvé un rôle qui lui convenait, qui l'exaltait, puisque d'autres, nous, étaient assez idiots pour trouver ça exaltant. Les prolos, il y en avait beaucoup que j'aimais pas trop, c'est vrai. Bah, Juju, par exemple. Mais quand même, tous cherchaient quelque chose de plus grand qu'eux. La fraternité, la révolution, l'aventure, quelque chose. Sinon, ce n'était pas la peine. Ce Juju, il avait cru trouver en nous, grâce à nous, aux bribes d'histoire qu'il apprenait de nous, à ses ventries, à notre crédulité, le moyen d'être plus grand qu'il n'était. Mais ce n'est pas que ridicule. Tous, on se bricolait des destins comme on pouvait. C'est ça qui nous unissait. Écoute, tu vas voir à quel point je suis ringard. Ce que je crois, c'est qu'on a été la dernière génération à rêver d'héroïsme. Bon, maintenant, ça paraît ridicule, ça vous paraît bon pour des cloches, et à vrai dire, vous ne voyez même plus ce que ça veut dire. Non, mais je sais. Mais auparavant, les jeunes gens avaient volontiers ce genre d'imagination. Il fallait que la vie soit épique, sinon, à quoi bon ? Il fallait côtoyer les gouffres, affronter le mystère, se mesurer aux dieux, aux monstres, découvrir des terres insoupçonnées, explorer cette région inconnue qu'on est soi-même devant la mort. Et contrairement à ce qu'on croit à présent, ce désir pouvait très bien se conjuguer avec celui d'écrire, de penser. Même, il arrivait que l'un aille difficilement sans l'autre. Il y a eu des poètes, des romanciers, des philosophes soldats, agents secrets, et ça n'était pas les plus minables, tu sais. On n'écrit pas avec ce qui est agréable, on ne pense pas avec ça. On écrit, on pense avec ce qui blesse, ce qui tue. Et même c'est avec ça qu'on vit vraiment. Pas avec le principe de précaution. Écrire ou peindre, etc., n'est pas intrinsèquement philanthropique. Bon, alors la Révolution, ça a été la dernière épopée occidentale. Après quoi, tout le monde est allé se coucher. La Révolution, à présent, c'est devenu un gadget, une pacotille bourgeoise, une fanfreluche. Ah, regarde, écoute, lis autour de toi, Marie. Nos élites se disent toutes révolutionnaires à présent. Mais avant que ça devienne un style prisé par les pages tendances des magazines chics, la Révolution, c'était le dernier avatar du vieux rêve d'héroïsme. Et on ressentait d'autant plus ce besoin d'héroïsme que la France de nos pères, en général, en avait si abominablement manqué. Naître juste après Vichy, tu sais, ça donne des envies d'épopée. Il y avait là-dedans une supercherie parce que notre volonté de nous effacer dans un être collectif avait pour origine le classique désir individualiste d'avoir un destin. Et c'est sans doute pour ça, pour expier ce péché littéraire, ce travers bourgeois qu'on a été si crédule après, si ridiculement humble devant des mecs comme Juju.
Confort in, jaune.
Porte de Clichy.
Porte de Clichy.
Panasonic. Blanc.
Pentax.
Rouge.
Suzuki.
Suzuki.
Hertz.
Jaune. Hertz.
Jaune. Location matérielle. Peppermate.
Peppermate. Bleu.
Rouge.
5h du mat. Combien de temps qu'on tourne ? 2-3 heures ? Combien de révolutions on a faites aux commandes de Remember ?
C'est pas.
7-8. Gaffe à l'essence. Pas fatigué ?
Non, ça va.
Bon, alors on continue ?
Ouais.
Thank you.
Le général en retraite Chalet, PDG d'Atofram, société qui avait licencié des grévistes et qui en outre produisait certains composants électroniques de base entrant dans la fabrication des bombes que l'US Air Force larguait sur le Vietnam, ce Chalet, donc, on avait fini par le charger dans la fourgonnette et notre chauffeur avait fait un démarrage de Grand Prix qui nous avait tous envoyés valdinguer. La suite des opérations était extrêmement délicate. Elle consistait à faire à Chalet une intramusculaire d'un produit anesthésique. On n'avait pas l'intention de le garder, juste de le fourrer dans une malle et puis de le déposer gare Saint-Lazare et d'appeler les journalistes. Et pour ça, il fallait le sonner un peu. On s'était procuré un produit anesthésiant. Un anesthésiant léger, je tiens à le préciser, une espèce de camomille améliorée. Je veux pas dire que c'était une gentille attention, hein. Non, mais enfin tout de même, pour dehors la loi, on prenait des gants.
C'est peut-être parce que vous avez eu peur, non ?
Non.
Peur pour vous ?
Non, Marie, non, on n'avait pas peur. Parce que si on avait eu peur, on n'aurait pas fait ce genre de choses, tout simplement. Quand on en arrive là, on n'a plus peur pour soi. Enfin, ou en tout cas, c'est plus du tout dissuasif, au contraire. Ça fait partie, la peur de la drogue. Alors, cette camomille, donc, il fallait lui injecter dans la fesse. C'était Judith qui était chargée de l'opération. Bon, encore fallait-il lui baisser son pantalon à ce Chalet. Et là, il s'est rebiffé. On lui expliquait pourtant, on essayait d'être persuasif, de dédramatiser. Mais non, rien à faire. Et il avait raison, d'ailleurs. Enfin, imagine le grotesque de la situation. Nous autres, cramponnés à sa ceinture... Lui aussi, Judith brandissant sa seringue, essayant de garder l'équilibre dans la valdingante carlingue. À la fin, un de nous s'est énervé, lui a mis un bon taquet sur l'arête du nez. Le Chalet s'est calmé, soudain. Alors Judith a pu lui faire sa piqûre. On était soulagés, mais pas tellement fiers. Et pas tellement plus en forme que lui. La camionnette roulait depuis quelques minutes. Elle devait déjà avoir été signalée à la police. Il était temps de changer de monture. Une fourgonnette d'une couleur et d'un modèle différent nous attendait au fond d'un garage souterrain, non loin de là. Et c'est au moment où on descendait la rampe du garage que l'irréparable s'est produit. Chalet sorti de la très passagère léthargie où il était tombé. Arc-bouté d'une détente des jambes, il a défoncé le coffre. Le bois, dans un craquement terrible, a éclaté. On ne pouvait plus boucler la malle, il suffisait que Chalet pousse encore un peu pour que son pied passe carrément à travers le bois. Il n'y avait plus qu'à le laisser là et se tirer en vitesse. Mais c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on a pris le métro Porte Dauphine, ou bien c'était Trocadéro, 13, Judith et moi. Et dans le wagon, 13 s'est assis en face de nous, et c'est là qu'on a vu sa tronche. Sa fausse moustache était de travers, à demi décollée. Hey, bon roi Dagobert, lui ai-je soufflé, ta moustache est de travers. Et il l'a enlevé d'un air digne, comme un vieux sparadrap. Et la colle a laissé sur sa lèvre supérieure une espèce de bave d'escargot noirâtre. Mais c'était pas loin d'être la chose la plus drôle que j'avais vue de ma vie.
Périphérique intérieur fluide. Périphérique extérieur fluide.
Périphérique extérieur fluide.
Blanc.
Vert.
Dans la presse du jour où on avait cravaté Chalet, à la une, on dénonçait le terrorisme maoïste. À la manchette du Monde, le président Pompe trouvait lui aussi que l'enlèvement de Chalet était un acte digne d'un pays de sauvages. Et à part ça, il y avait encore dans ce numéro du Monde une information qui m'avait accablé lorsque je l'avais lu le lendemain. Roger le Belge nous avait accueillis de l'autre côté de la frontière, 13 et moi. Il nous avait logés chacun chez des progressistes, à XL, dans les beaux quartiers. À la télé belge que j'avais regardée en compagnie de mes hôtes, on avait vu la tête du général Chalet avec, à vrai dire, les yeux très au beurre noir. Ça m'avait désagréablement étonné. Et puis la gueule de Topinambour du ministre de l'Intérieur, l'infâme Saint-Marcelin. Un héros de la résistance. C'est comme ça que Saint-Marcelin appelait Chalet. Qu'est-ce que c'était encore que cette histoire ? Saint-Marcelin était connu pour être un éhonté menteur, un homme de basse propagande, mais tout de même. Alors le lendemain, à l'aube, j'avais couru jusqu'à la gare du Midi acheter le Monde. Et là, le désastre s'était confirmé. Nom de Dieu, un combattant de la France libre. C'était le Monde qu'il disait, hein, pas Saint-Marcelin. Prisonnier en 40, s'évade, gagne Londres, et puis de là le Levant, rejoint la première DFL, blessé au Garigliano, blessé de nouveau devant Strasbourg, merde alors. C'est ce type-là, un patron peut-être, mais avant ça un combattant antifasciste, peut-être un camarade du lieutenant, pensais-je, qu'on avait tabassé dans une camionnette. C'était pas notre intention, bien sûr, mais nos intentions, tout le monde s'en foutait. et avait raison de s'en foutre.
Korean Air. Rouge.
Vol direct.
Bleu. Panasonic. Bleu.
Saint-Denis, Charles de Gaulle.
Sanyo, rouge. Samsung.
Une fois, j'ai été salaud avec ton père. Une seule fois, mais je l'ai été. Je préfère que tu le saches. Un jour, c'était peu après l'enlèvement de Chalet, il a eu une histoire avec Béatrice, l'avocate. 13. Le souvenir de son visage s'efface dans ma mémoire, mais enfin, il me semble quand même qu'il était assez beau. Des yeux gris, le nez busqué, cassé plutôt, l'arête faisant un angle, des cheveux courts d'un blond foncé, une fossette profonde au milieu du menton. Et puis, surtout, quelque chose d'ardent qu'on avait tous, plus ou moins, mais nous c'était quelques étincelles et lui tout le feu. Béatrice, on en était tous amoureux, mais on n'aurait jamais osé lui parler. 13, lui, avait eu cette audace. Un jour, ils ont filé ensemble, sans prévenir. Mais en ce temps-là, comme je te l'ai raconté, on passait notre vie en réu. Leur disparition fut donc vite constatée. On a tout de suite commencé à s'inquiéter, à craindre qu'il ne soit détenu quelque part. Mais au bout de 2 ou 3 jours, 13 m'a appelé. « Tu ne devineras jamais ce que je suis en train de regarder, » me dit-il. « Ben non, je ne devinerai pas, alors dis-moi. » « La mer. » « Ça, c'est la meilleure. La mer, et qu'est-ce que tu fais ?»« Ben rien. » Je la regarde. C'est beau, hein ? Extrêmement beau. J'avais oublié que ça pouvait être si beau. Comment est-ce qu'on a pu se passer de ça ? Ça me donne envie de chanter, dit-il. Là, je suis sidéré. Je ne reconnais pas dans ses propos le langage des larges masses. Les larges masses n'en ont rien à branler, croit-on, de la beauté de la mer. Ben, n'oublie pas de nous ramener des photos, lui dis-je, sarcastique. Envoie des cartes postales à Gédéon, ça lui fera plaisir. Mais il continue. Sur son ton d'illuminé, il aime regarder les nuages, les oiseaux de mer, si élégants, si gracieux, des conneries comme ça. Écoute, lui dis-je, la mer est un outil de travail pour les pêcheurs et les marins et un champ de rivalité stratégique pour les impérialistes. Point, redescends sur terre. Mais j'y suis sur terre, me répond-il. C'est toi qui n'es pas sur terre. On ne sait plus rien sentir. On est en train de devenir idiot et féroce. On n'aime plus, là, une chose si énorme, je pense qu'on l'a drogué. Ou alors qu'il s'est lui-même drogué, à vrai dire. Mais qu'est-ce que t'as pris, je lui demande. Bah, 2 bouteilles de Sancerre et pas mal de pétards, avec Béatrice. Parce que je suis avec elle, vous l'aviez compris. Elle est belle aussi. Elle m'apaise aussi. Enfin, m'apaiser, c'est peut-être pas le mot, mais écoute, je te demande pas de me dire ce qu'elle te fait. Je te demande de revenir. Et ils sont revenus. J'en avais référé à Gédéon. Ben, c'était la règle, mais c'était quand même moche. Gédéon l'avait mal pris. On leur a fait un procès, on les a séparés. C'était l'histoire de Winter qui recommençait. J'ai collaboré à cette saloperie. On est tous un jour ou l'autre, Judas.
Porte dorée. 600 mètres.
600 mètres.
Volvo, la Révolution. Elle est bien bonne, celle-là.
Combien de révolutions vous avez faites, la fille de 13 et toi ? 10 ? 12 ? Depuis le temps que vous tournez autour de la grosse boule sombre couturée d'électricité. Putain, l'essence est à zéro. Faudrait peut-être que je pense à ramener la fille de 13 avant qu'on tombe en panne.
Pendant toutes ces années, en fait, les seules vacances qu'on ait prises, c'est étrange, plutôt grinçant. C'est aussi la seule fois où on a cherché à descendre un type. Normalement, je t'ai dit, on mettait même pas de balles dans nos pétoirs. Mais là, ce type était un ancien chef de la milice, il avait organisé des rafles, des exécutions d'otages. Et on disait que le président Pombe protégeait ce vieux salaud, ça avait fait un énorme scandale. On m'avait rencardé avec un cardinal ancien résistant, je te jure que c'est vrai. Le rendez-vous était très sophistiqué, c'était dans le wagon-restaurant du train Paris-Rome. On m'avait expliqué que je reconnaîtrais mon cardinal au fait qu'il avait plutôt l'air d'un rugbyman. Et c'était vrai. C'était une éminence extrêmement baraquée. Et il me confia rapidement, à voix basse, que le vieux salopard s'était planqué dans un couvent, dont il ne pouvait me dire le nom, mais qu'il savait de source absolument sûre qu'il repasserait tôt ou tard par sa maison, pour récupérer des documents dans une cachette que lui seul connaissait.
Voilà, c'était tout, mais c'était énorme. Un membre de la curie romaine nous donnait à l'avance l'absolution pour un meurtre qu'il nous invitait implicitement à commettre. Alors, comme il m'était vite devenu extrêmement sympathique, je lui proposais en rigolant de devenir l'aumônier de la cause. Ben, ce serait avec plaisir, me répondit-il. Il y a des âmes à sauver partout, mais peut-être plus encore au sacré collège que parmi vos camarades. Que voulez-vous dire, lui demandai-je, que les âmes de vos collègues sont plus dignes de compassion ou qu'elles en ont plus besoin? Mais je crois que vous m'avez compris, me dit-il. Au demeurant, Dieu est venu sur terre pour les pécheurs, pas pour les justes. Je t'ennuie peut-être avec ces histoires, le mot péché n'a sans doute aucun sens pour toi.
Dis, tu me prends décidément pour une idiote?
Non, mais tu sais bien que non. Mmh. À la maison du milicien, c'était à Chambéry ou Annecy, enfin, une ville dans les montagnes et près d'un lac. Et on avait eu de la chance, enfin si le mot convient dans ce cas, de l'autre côté de la route, il y avait un immeuble neuf avec des fenêtres et des balcons dominant Saint-Cagna. Il n'avait pas été difficile de louer un appartement. On n'avait plus qu'à attendre. Tuer un homme, même un archi-collabo, c'était pas une décision à laquelle on s'était préparé. Si tout d'un coup on le voyait, est-ce qu'on aurait le sang-froid, la dureté de pousser le cran de sûreté, d'épauler, de viser, de tirer? Est-ce qu'on serait à la hauteur? Ou bien au contraire assez bas pour faire ça? Les heures passaient lentement, très lentement, derrière la fenêtre, au rideau tiré, à observer par l'interstice, debout, immobile, fumant clope sur clope, le fusil à portée de main, armé, vous demandant si... Mais non, surtout ne rien vous demander, guettant, vous concentrant dans le guet. On passait pour des brutes, mais on avait un fond de bon garçon, des restes de tendres jeunes gens. Finalement, on n'a pas eu l'occasion de savoir comment on aurait réagi si on avait eu ce salaud dans la ligne de mire. Le tuyau du cardinal était crevé, ou bien nous, pas assez patients. On l'a attendu 2 mois en vain, après on a levé le siège. Assez soulagés, tous.
Et c'était ça vos vacances, les seules que vous ayez prises?
Et derrière les rideaux, on ne pouvait pas tenir bien longtemps, on se relayait donc toutes les 2 heures. C'était l'été, ceux qui n'étaient pas de car partaient au lac. Une fois, je me souviens, on avait loué un pédalo avec Judith et 13. On était au milieu du lac, dans un état d'insouciance, de légèreté heureuse qui nous reposait à un moment de notre souci. Et en revenant vers la rive, on a improvisé une petite chanson qui aurait pu nous valoir des ennuis. Gédéon exigeait des autocritiques pour beaucoup moins que ça. Le président Mao a fait du pédalo, comme tout le bon populo. C'est 13 qui est l'auteur de ces vers de Mirliton. Et moi j'ai enchaîné comme ça. Et si tu veux que ça bouge, lis le petit livre rouge. Oui, mais au fond des bouges. Et Judith a trouvé la plus jolie strophe. On est prêt à mourir, mais si on peut choisir, on préférerait sourire.
Le ciel pâlit au-dessus de la Seine. À droite clignotent les tours de lancement de BNF. Paris-Centre, porte de Bercy.
Porte de Bercy.
N19, 300 mètres.
Quai d'Ivry.
Merde, panne sèche. Il fallait pas être si bavard aussi. T'as dû parler pendant 500 kilomètres.
Bon, ne nous affolons pas. Je vais te raccompagner à pied. T'es encore loin chez toi?
Non, mais
ensuite, je me démerderai. De toute façon, il va bientôt faire jour.
Par un boyau pentu entre des jardinets, vous arrivez dans sa rue. C'est là qu'elle habite, sur les hauteurs d'Ivry, dans cette rue qui est comme un balcon sur les âges de la ville, où le temps se replie et se noue, se rebrousse en figures aléatoires, comme celle d'une boule de papier froissé. Rue qui sillonne une topographie de bataille aussi, à flanc de coteaux, dominant la vallée, le confluent, les portes orientales de Paris.
Il y a sûrement eu des combats ici en 1814, pendant la campagne de France. Puis en 1870, et puis pendant la Commune. Ça sent la poudre à canon par ici.
Ici, c'est chez moi et j'ai jamais senti ça. D'ailleurs, ça sent quoi la poudre à canon?
Je sais pas. Les feux d'artifice, je suppose. Hein. Les farces et attrapes de l'histoire. Tu sais, je suis énervant, hein, souvent. Ouais. Moi, je m'en rends compte. J'ai l'air de mépriser les gens de ta génération, de n'avoir que sarcasme pour eux, pour vous. Mais c'est pas vrai. C'est une attitude. Ce que je méprise, c'est la démagogie de ma génération à moi vis-à-vis de la vôtre. On n'a pas à chercher à se faire aimer, on n'a pas à vous imiter ni à vous admirer. Mais on ne veut pas vieillir, alors on vous fait la cour, à vous, nos enfants. C'est obscène, hein. Mais l'idée d'une jeunesse du monde, ça a évidemment à voir avec la Révolution. Et même l'idée que ceux qui sont supposés ne rien savoir apprennent à ceux qui savent, c'est un grand rêve. On a cru que la Chine, c'était ça. Et évidemment, notre naïveté prête à rire, maintenant. Non, il y a une belle phrase de Mao, il y en a, tout de même. Je me fais volontiers le buffle de l'enfant. Une révolution, c'était la revanche des morveux, le peuple, cet éternel enfant, irresponsable, irréfléchi, mal élevé, rejetait l'autorité des maîtres, des grandes personnes. Et c'est pour ça que Gavroche restera plus vivant que Lénine.
Pourquoi tu n'as pas eu d'enfant ?
Ah, bien visé. Eh bien, il y a très longtemps, à l'époque de la cause, il y avait l'idée que l'avenir était trop dangereux, trop incertain. Mais après... Franchement, je sais pas. Peut-être dans le dessein insensé d'échapper au temps, à tout ce qui était de l'ordre de la succession, génération, corruption, échapper à cette contingence, ce pouvoir du monde sur nous, ne pas rendre les armes au réalisme. Notre histoire, quand on était un nous, s'était déroulée assez largement hors des contraintes du réel. Atterrir là-dedans, les deux pieds dans le plat du réel, parachuter depuis la région des chimères, certains en ont été capables, la plupart... Mais moi, non, j'ai raté le plat. Et Dieu sait, pourtant, qu'il était vaste. La dose d'irréalisme avait été trop forte, ou bien alors j'avais pas assez d'anticorps, je sais pas. Alors voilà, je suis resté un irresponsable, un vieil enfant. C'est assez ridicule. J'ai pas grandi. Mais comment veux-tu avec ça que je méprise les enfants ?
Je suis pas une enfant.
Je sais. Je sais bien que tu n'es pas une enfant. Tu peux même imaginer les idées que ça me donne.
Ouais, peut-être.
Non, sérieusement, ça me désole de n'avoir embarqué personne dans votre bateau, celui de ta génération, de ton siècle. J'ai l'impression, je sais pas comment dire ça, d'avoir trahi, de vous avoir lâché. J'aimerais savoir où vous aborderez. Ce qui m'intéresse en vous, c'est la profondeur de futur que vous abritez, tout l'indécidable dont vous êtes gros. Nous, tout est dit et mal dit, le plus souvent. Mais vous avez partie liée avec l'énigme. Vous serez peut-être aventureux, poétique, qui sait. Nous, on est écrit en prose. Et puis vous êtes infiniment plus curieux et tolérant que nous n'étions. Nous, on était tout noués de certitudes et il y en avait beaucoup d'idiotes. Bon, où est-ce que j'en étais ? Ah oui, on était dans le métro. Après, dans la nuit, on a pris le train postal à la gare du Nord pour aller se planquer en Belgique. Debout dans le couloir, fenêtre baissée, on fumait. 13 et moi, silencieux, regardant le lent défilé des gares, des usines, des corons, terrils, chevalements, canaux. 13 avait un de ces briquets, boîte à musique chinois, qui jouait l'Orient rouge quand on en ouvrait le capot. La, 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 la. L'Orient est rouge, le soleil se lève. À chaque clope qu'il allumait devant le paysage nocturne, retentissaient les premières mesures du ridicule cantique. « Tu crois que c'est bien nécessaire ?» lui ai-je demandé d'un air sombre. « À l'heure qu'il est, toutes les polices de France devaient être à nos trousses. C'était bien le moment de se faire remarquer. » La tresse se marrait silencieusement, tirant sur sa clope, fredonnait les paroles en chinois approximatif. « Dong fang hong hong tai yang hong, shen gong yu shun lei mao zhe long. » Et le train est resté en gare de Lille pendant un temps qui nous a semblé interminable. Puis il a redémarré dans un grand criaillement de ferraille, direction Croix-Vascal, Croix-l'Allumette, Roubaix. C'est là qu'on descendait, avant le terminus Tourcoing. Quand on est sorti sur la place, devant la gare, le ciel était jaune et vert, comme l'intérieur d'une feuille de salade. On a pris le tram sur le boulevard industriel et puis on a marché jusqu'au village étrangement nommé Gibraltar. Non mais je te jure que c'est vrai ce nom. La frontière y passait. Roger le Belge nous y attendait, rue du Congo, au bar des sports. L'Orient est rouge, l'Orient est rouge, le soleil se lève. Mais on a commencé tous les deux à gueuler, ça. Nous prenant par l'épaule, lançant la jambe en un grotesque French cancan et puis la lançant de moins en moins haut, trop pliée de rire.
En Chine, vraiment, c'est temps.
Marchant, plutôt sautillant, bientôt...
fuyant presque à quatre pattes vers Gibraltar, le visage fardé par le soleil levant. Il cherche notre bonheur, il est notre sauveur. Et c'était ça encore, cet hymne ridicule qu'on braillait, Treize et moi, le soir, ou plutôt le petit matin, où on a fait l'ascension de la tour sud de Saint-Sulpice. On était bien sûr complètement fait. On avait passé la nuit dans des bars du quartier latin. Cette époque-là, il y a 20 ans, on faisait plus grand-chose d'autre. Les grands timoniers, les soleils rouges éclairant l'avenir radieux, on en avait soupé, on n'en reprendrait plus. Et en même temps, on n'avait pas envie de devenir des bourgeois, comme si on ne s'était pas révolté 10 ans, 15 ans avant, contre cet avenir préfabriqué, comme s'il n'y avait pas eu toute cette colère et toute cette espérance. Nos croyances étaient en ruines, mais c'était des ruines très encombrantes, sur lesquelles rien n'avait repoussé, rien n'avait été reconstruit. Treize faisait vaguement de la musique, moi j'envisageais d'écrire un livre, et il ne nous semblait pas que la vie allait recommencer avec ça. Moi je m'étais séparé de Judith, Treize avait connu ta mère, t'avais combien, tu m'as dit déjà, 4 ans ?
Oui.
Ouais, on était un peu des épaves. Lui se défonçait, moi je n'y tâtais pas trop, j'avais une espèce de prudence dans la folie qui avait fait de moi un pas mauvais chef de bande du temps de la cause. En fait, je crois que j'ai plus jamais rien fait aussi bien que ça. C'est dire. Hein. Écoute, il faut pas que tu sois choqué. Je voudrais aussi que tu essaies de ne pas m'en vouloir. Je n'étais pas son âme damnée, on l'était chacun l'un pour l'autre, si tu veux. Bien sûr qu'il t'aimait, mais il n'arrivait pas à renouer sa vie à partir de toi. Peut-être parce qu'elle était trop nouée encore à notre étrange histoire, trop liée à ce qui n'était plus maintenant qu'un passé décomposé et le souvenir qu'il y avait eu de l'avenir. Je sais pas si je dis ça clairement. On n'avait pas été habitué à concevoir l'avenir comme la croissance d'un enfant, ni le réel sous les apparences d'une famille. C'était pas si facile pour lui d'accueillir ça au milieu de nos ruines. Enfin, bref, ce petit matin-là, on était noirs. Et en plus, Treize devait être défoncé, à quoi, je sais pas, je voulais pas le savoir. On est arrivé place Saint-Sulpice, et là, on a vu les échafaudages. La tour sud, celle qui est inachevée, était couverte d'un fouillis de poutrelles, on aurait dit la tour de lancement de Saturne V. Et c'est ça d'abord qui nous a enthousiasmés, cette haute échelle de métal dressée vers le ciel. On allait se glisser dans la capsule Apollo et partir pour la Lune. Sur Terre, on n'avait plus rien à faire. On n'a pas eu trop de mal à forcer une palissade et on a commencé à grimper. On avait une force et une inconscience terribles. Au fur et à mesure qu'on montait, on modifiait nos plans. On allait embarquer dans Apollo et partir faire la révolution sur la Lune. Et puis, il y a eu cette idée de rencontrer Dieu. Table ronde, là-haut, au sommet. Les deux seuls chants théoriquement justes sont le Credo et l'International, soutenais-je en grimpant comme un singe. Tout le reste, c'est de la chansonnette. Ouais, n'importe quoi. On s'arrêtait, on faisait un palier, on allumait une cigarette et on braillait ça. Credo nunum deum. Et debout les damnés de la terre. Quand une porte verrouillée barrait l'escalier, on la contournait. On se hissait de poutrelle en poutrelle comme des gabiers dans une mâture. On a fait une halte à la hauteur de la terrasse entre les deux tours. On chantait « We pull and hold together, oh, oh, we hold better weather. » On arriverait à Valparaiso. À mesure que nous montions et que l'aube approchait, Paris en dessous de nous se déployait, vague après vague jusqu'à l'horizon, houle abrupte de zinc sur laquelle scintillaient quelques figures d'or, dômes, génies, chevaux ailés, clocher, Saint-Germain, tout proche. En dessous de quoi on avait mis une raclée aux fachos d'Occident en 68. Le pylône kaki, là-bas, bergère, haut, tour Eiffel. Treize et moi, on n'en connaissait que le premier étage. On y était monté un jour pour dérouler dans le vide de grandes banderoles célébrant la victorieuse lutte du peuple vietnamien. Il faudra qu'un jour on grimpe jusqu'en haut de la tour Eiffel, me dit-il. Maintenant qu'on n'a plus rien à y faire, que regarder, comme tout le monde. Maintenant qu'on est devenus des voyeurs, les seins d'albâtre de l'observatoire. Les collines sortaient de l'ombre, la butte aux cailles où Chloé avait eu un petit studio, Chaillot où on avait cravaté le général en retraite, chalet, les hauts de Belleville où j'avais habité avec Judith, chez la Mercière et son fils. À gauche de Montmartre, les toits de Saint-Lazare où on avait voulu déposer chalet. et à droite ceux de la gare du Nord où on avait pris le train postal. Tu te souviens de ton briquet qui jouait l'Orient rouge, et je dis à 13, et on a commencé à couiner ensemble. On est très haut maintenant, au niveau du dernier étage de notre fusée. 13 inspecte le module lunaire, il tâte la pierre, il se penche à l'intérieur du puits. Tout semble ok, mais soudain il se ravise. Et Dieu alors, où est-il passé? On n'avait pas rendez-vous avec lui? On ne devait pas discuter ensemble? Il a peur de nous, peut-être.
T'as peur? Hein? Unicorne!
Gueule-t-il.
Unicorne de mes deux!
Et il s'esclaffe d'une façon qui me semble un peu outrée, comme s'il venait de dire la chose la plus drôle du monde. Il a l'air de plus en plus excité, et moi, par contraste, de plus en plus raisonnable, comme d'habitude. La fatigue et le froid commencent à me gagner, et avec eux le vertige. Mais qu'est-ce que je fous là? Le soleil grenadine se hisse au-dessus des arbres noirs du bois de Vincennes.
Gong, chang, gong, chang, ting, hang.
Gueule 13 en forçant un accent de chinois d'opérette, perché et nasillard. Le parti communiste est comme le soleil. Là où il éclaire, règne la lumière. L'idée de capturer Dieu lui a déjà passé. Il éclate de rire, mais c'est pas comme ces rires qui ont jalonné notre vie. C'est un rire pour lui seul. Un rire sifflant, fusant des couches profondes de la douleur. Un spasme qui n'a rien à voir avec la gaieté. Le soleil rouge se lève sur le zoo de Vincennes.
Les singes doivent mettre leurs lunettes noires à cette heure!
Braille-t-il. Et il sort une paire de lunettes noires et se les colle sur le nez d'une chiquenaude. Le voilà qui se lance à toute vitesse sur les échafaudages, braillant que le président Mao est le roi des singes, le singe d'or, qu'il veut le bonheur du peuple des singes, des bandes d'arlogues. Voilà exactement comment ça se passe, Marie. Et il tombe. Voilà. C'est fini. Mais de toute façon, tu savais tout ça, je t'apprends rien.
Oui, mais est-ce que tu crois?
Non. J'en sais rien, mais je crois pas. Je crois qu'il était raide et qu'il est tombé, c'est tout.
Vous fumez en silence. Les panneaux publicitaires clignotent et s'éteignent le long du périphérique. Un premier train de banlieue glisse au milieu des clairs, dans la vallée vers Austerlitz. Tu lui tapotes la nuque sous les cheveux. Et après? Après rien. On s'en va, vous en faites pas.
Grand papier d'Olivier Rollin. Enregistré en public le 14 avril 2018 au studio 104 de la Maison de la Radio. Avec Eric Elmos-Nino et Anise Emberger. Musique originale de Grégoire Hetzel, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corlet. Conseillère littéraire Caroline Oisana. Musicien metteur en onde Paul Malinowski, Benoît Gaspard. Régisseur d'orchestre Philippe Lebourg, Adrien Hippolyte. Régisseur technique, Farid Melab. Lumière, Titouan Oex, Marie Ducatèze, Steven Chardonnay. Équipe technique, Jean-Louis Deloncle, Jean-Michel Coqui, Lidouine Caron, Romain Lenoir, Philippe Thibault, Mathieu Leroux, Lucas Vaillant. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Christophe Auquet. Petit grand papier d'Olivier Rollin est publié aux éditions du Seuil.